Vous voyez, quand on a la projection sur l'écran, on finit par ne plus prendre la Bible et on pourrait rentrer à la maison et regarder un film sur Jésus, un truc, et puis il faut absolument casser ce mécanisme de l'image et il faut aller dans la Bible, régulièrement. Et donc, il y aura toujours une partie où il n'y aura pas de rien sur l'écran, il y aura toujours une partie avec la Bible en main pour ne pas perdre l'habitude d'ouvrir le livre sacré que Dieu nous a laissé. Bien sûr, ce que nous avons projeté vient du livre sacré. Et quand cette personne qui présentera ce livre dimanche prochain se rendra à quel prix les chrétiens pour avoir une Bible dans les camps, en Sibérie, à quel prix il aura fallu souffrir pour avoir une Bible, et comment tous les autres qui étaient dans les camps avaient soif de la parole de Dieu, des bandits, des truands, à l'entour du chrétien, quand ils découvraient qu'il y avait un chrétien parmi eux. C'est vraiment un cadeau que de lire de tels livres. Alors, nous allons continuer notre réflexion sur la prière. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un a besoin de petits cartons pour noter, il peut, hein, mais de toute façon, il faut aussi un bic alors. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que c'est que la prière dans ce beau livre de l'Apocalypse? Eh bien, regardez bien au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 3.10. Dans ce texte, il est sûr et certain que cette église qui garde la parole de Dieu et qui persévère pour la vivre, est gardée par Dieu. Comme c'est dit dans les psaumes, le psaume que a présenté aujourd'hui Michael. C'est un message permanent, ce psaume. Était présenté par Michael aujourd'hui. Et pour le temps de la fin, eh bien, l'Église qui veut persévérer en Christ doit garder sa parole. Il n'y a pas de dissociation entre le Christ, la personne de Christ, et sa parole. Et l'un va avec l'autre. Celui qui demeure dans ma parole demeure en moi, dit Jésus, dans Jean. Alors, je te garderai à l'heure de la tentation, donc le tentateur, Satan va offrir à tous les croyants de terribles épreuves pour qu'ils abandonnent ou qu'ils soient séduits. Et cette heure de la tentation, c'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose d'extrêmement fort qui va tomber sur les nations. C'est quelque chose qui se prépare, en puissance déjà maintenant, qui s'organise, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et évidemment, les habitants de la terre subiront les tentations et tomberont dedans. Et c'est pour ça que du chapitre 6 au chapitre 18, tout ce qui est mis dans ces chapitres-là, c'est pour les habitants de la terre éprouvés qui ne sont pas avec Christ et qui sont dans les tribulations, alors que l'Église est hors, dehors. Donc c'est quelque chose de très important. Pourquoi Christ dit ça à cette église? Parce que le chrétien, dans les églises de fin du 1er siècle, les chrétiens, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui ne gardent pas la parole, il y a ceux qui la gardent. Il y a ceux qui persévèrent, ceux qui ne persévèrent pas. C'est la même chose, le même message dans l'Épître aux Hébreux qui est écrit à peu près à la même époque, vers les années 90, 95. Et donc, après deux, trois générations chrétiens, il y a un refroidissement et il y a des fervents. Et donc, on pourrait prendre considération de cela pour la situation des églises d'aujourd'hui. Jésus garde lui-même celui qui est dans la parole, celui qui persévère dans la parole et dans la communion avec Jésus. C'est Jésus qui le garde. C'est le même thème, tout compte fait, que le psaume que nous avons entendu aujourd'hui. C'est fort important. Parce que je ne pense pas que Dieu est ignorant, aveugle et indifférent à ceux qui ont la foi. si vous comprenez cela, votre véritable motivation pour prier, vous l'avez. Dieu est attentif à vous. Dieu vous considère. Dieu vous regarde, vous entend. Ça, c'est extrêmement extrêmement précieux. Si vous n'avez pas cela, vous êtes comme dans un désert spirituel. Et souvent, je vois des chrétiens, ils tombent en dépression, ils glissent sur les peaux de banane qui arrivent, les moindres ennuis. Pourquoi? Parce qu'ils oublient que Dieu est là, il les regarde, il les entend, et qu'ils peuvent s'adresser à lui. Tout de suite, ils retombent dans leur état d'âme, dans une cacophonie à l'intérieur, et il faut parfois des semaines, des heures ou des mois pour se rattraper. Parce qu'ils se sont écoutés. Ils se sont laissés avoir par le tentateur. Nous avons un ennemi redoutable, mais il n'y a pas que l'ennemi, hein, il a bon dos l'ennemi, des fois. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nous laisser aller dans le sentiment ou le ressentiment. Sentiment divisé en deux, le senti, ment, du verbe mentir. Le ressenti, espace, ment, du verbe mentir. Il faut savoir couper nos états d'âme en disant non. Seigneur, moi je me tourne vers toi, arrière devant et arrière mon péché, parce que c'est une puissance, arrière cet état, je n'en veux plus, je suis en Christ, je suis avec Christ, je n'écoute plus mon péché. Il a été crucifié à la croix, une fois pour toutes, je n'en veux plus. Je déclare qu'il n'a pas d'autorité sur moi. Voilà la vraie prière qui fait qu'on trouve une liberté. C'est une liberté. Grâce à la parole et la persévérance en Christ, on a la capacité d'avoir la prière à portée de main pour être toujours avec le Seigneur. C'est comme si je tombais à la mer et que tout de suite il y a une bouée de secours pour m'attraper. Je n'ai plus qu'à la saisir. La prière est là. Parce que je suis certain que le Seigneur est là, m'écoute, me regarde. C'est extrêmement important de se tremper dans la parole de Dieu, de se tremper dans la persévérance, dans la parole, et de se mettre à nu devant le Seigneur dans la prière. Mais, Seigneur, sans toi, je peux rien. Mais je sais que si tu es là, tu me gardes. 1 à Timothée, chapitre 4. Vous savez très bien que cette prière, c'est bien sûr dans l'Apocalypse, un chapitre ou deux plus loin. Elle est dans des coupes en or, les anges se mettent devant Dieu, c'est le parfum, la prière des saints, hein, le parfum. Donc vous imaginez que ce que vous considérez comme quelque chose de très pauvre, de très... Non, c'est pas pauvre, c'est riche, puisque c'est mis dans une coupe en or, c'est porté devant Dieu par les anges. Donc restituer à la prière sa noblesse, sa valeur extrême, plus extrême que n'importe quoi. Vous trouverez ce texte avec les coupes en or, hein, dans chapitre 5, verset 8. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Notez-le si vous voulez aller lire, mais voilà, moi je vais avancer. Et pratiquement, 1 Timothée, chapitre 4. Nous avons un énorme privilège. Trop souvent, nous avons... je pense qu'on est médiocre par nature. Il faut lutter contre une médiocrité qui revient tout le temps. Parce qu'elle nous coûte cher après. Elle nous coûte trop cher, on souffre inutilement. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la prière, hein, c'est Eucharistein, c'est dire merci. C'est célébrer la gloire de Dieu et lui dire merci. Moi, là, ça fait depuis le 15 septembre que un tendon est cassé, là, coupé. Hein? Bon, Jackie demandait à Jackie, ça ne doit pas être la fête pour lui depuis longtemps, lui. Bon, je vais être opéré, ça c'est clair. Mais ce qu'il y a, je sens que ça commence là. Hein? Ben oui, force, il faut faire aller là tout le temps. Mais il y a du boulot ici, on ne peut pas toujours être en train là comme ça, d'attendre bailler au cornet, comme on dit. Hein, bailler au cornet. Pratiquement, ce qui se passe, rendre grâce est nécessaire, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose que Dieu veut derrière tout ça. Eh oui. Et c'est pas fini. Après l'épaule, ce sera autre chose. Je vais en faire une collection. Pourquoi? Parce qu'il faut me dépouiller, il faut perdre toute idée que nous faisons quelque chose sur cette terre. C'est Dieu qui fait en nous. Il faut perdre toute idée que nous faisons quelque chose sur cette terre. C'est Dieu qui fait en nous. C'est le seul but. Que Dieu fasse quelque chose en nous, son vouloir et son faire. Le reste, basta. Il faut accepter d'être dépouillé. Et donc, il y a un bon programme pour cette année 2019. Le dépouillement. Alors, qu'on prenne avec action de grâce en disant merci. Hein? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Donc, ce que Paul vient dit là, c'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse avec Jean. Cette église est sanctifiée par la prière, par la parole de Dieu, évidemment, l'église de Philadelphie. Tout est sanctifié, même les pires de nos péchés, même les pires de nos travers, les sales caractères qu'on a reçus d'une tata, d'un tonton, du père ou de la mère, parce qu'on entraîne des casseroles, hein. Tout doit être sanctifié. Tout est possible de passer par le feu de l'amour de Dieu, par sa sainteté, par la puissance de son Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu pour nous transformer. Le chrétien doit accepter cette dimension d'être sanctifié, rendu saint. Soyez saint comme je suis saint. Premier épître de Pierre. Hein? Ça vient du Lévitique. Et c'est vieux, le Lévitique. 14 siècles avant Jésus. C'était le programme de sainteté du peuple de Dieu, d'Israël. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, il y a un filet qui est jeté sur le monde pour rester dans le péché. Or, Dieu, lui, nous donne la solution, le chemin pour ne pas être dans le filet. Il faut donc garder la parole et se sanctifier dans la parole et la prière. Et là, il n'y a pas de filet sur nous. Si on s'empêtre les pieds dans le filet, c'est parce que nous, chrétiens, nous sommes retombés en dehors. On l'a lu en quatrième vitesse, on ne l'a pas lu depuis plusieurs jours, la parole de Dieu, où on a prié. On priera bien comme ça, un petit peu de temps en temps. Un peu de poudre de perlimpinpin, quoi. Mais ça ne va pas. Ça ne marche pas, figurez-vous, parce que Satan, lui, il bombarde. Et puis en plus, la nature, la vieille nature, elle revient. Alors, Luc 21, 35. Et la vieille nature, et là, la bête est féroce, hein, elle revient, la vieille nature. Elle a du mal à agoniser, la vieille nature, sur la croix. Mais elle a été crucifiée, de toute façon. Elle claquera. Il n'en restera rien. Autrement, on ne rentrera pas au ciel. Luc 21, verset 35. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Hein, que, voilà une réalité, un filet. Vous savez, quand on attrape un lion, une gazelle, on a mis des filets, on les a pendus dans les arbres, on met une chevrette, là, après un petit piquet, le lion arrive et paf, le filet, hop, dans une cage, hop, dans un zoo. Hein, ou alors, le filet pour les poissons. 15 km de filet, avec un bateau puissant, et puis on... Allez, 25 tonnes de poissons d'un coup. Allez, on s'étonne qu'après, il n'y a plus rien à manger pour les populations africaines. Nous, c'est pour nourrir les cochons en Flandre, en Hollande. Qu'on voit dans les camions qui vont nourrir la France, l'Italie, etc., la Belgique. Des gros camions de cochons à 5-6 étages. Nourris par la... Peu importe. Dieu arrêtera un jour cette économie de tricheurs. Quand les paysans africains vendent leurs produits à un bon prix, ils pourront mettre leurs gosses à l'école et avoir des habits sur eux. Qu'on arrête de dérégler tout. Eh bien ici, le filet, il y a un filet qui est sur le monde et il faut y échapper. Il faut y échapper. Nous ne sommes pas destinés à rester dans le filet. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez, examinez-vous, regardez sur vous-même, donc votre comportement, votre vie, ayez un sens critique pour rester, pas se faire d'illusions sur soi-même, pour rester vraiment en contact avec L'amour de Dieu, sa parole, il faut avoir un sens critique sur soi-même. Si on ne l'a pas, de toute façon, on aura des mauvaises expériences, il faudra bien l'acquérir. Il faudra bien ramasser des baffes, et puis paf, et puis c'est... Alors, veillez, priez en tout temps, donc c'est en tout temps, c'est pas de temps en temps. Parce que ça, de temps en temps, c'est un autre évangile. C'est l'évangile de la médiocrité et de la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de force si c'est de temps en temps. Regardez bien le verset, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Le filet est tellement bien tendu avec toutes les ruses de Satan. Il est tellement astucieux, c'est pas un idiot Satan. Et il a beaucoup de serviteurs sur la terre. Que ce filet, il est très bien étudié. Attention à la télévision et tout le reste, Internet, tout ce cirque qui s'étend, c'est, pour moi, c'est un des filets. Hein. Alors, la liberté, la prière donne la liberté. C'est l'expression dans mon cœur de « j'apprécie la liberté que le Seigneur me donne ». J'apprécie la liberté retrouvée grâce au sang de Jésus versé à la croix. Je l'apprécie cette liberté et je veux la conserver, donc je vais prier et lire la Bible. Parce que je perds vite ma liberté, très vite, trop vite, et le filet retombe sur moi. Et si le filet retombe sur moi, serai-je avec le Seigneur quand il viendra ou me laissera-t-il dans la tribulation ? À moi de choisir. Je n'ai pas envie d'être dans les tribulations. Je trouve déjà que ce n'est pas marrant. D'abord pour beaucoup d'autres, parce que je suis encore dans les vernis, comme on dit, sur la terre. Les vernis, oui. Mais il y en a quand même qui en prennent une bonne dans la figure. Hein. Leur pauvre vie, ils naissent pour être malheureux. C'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est pas Dieu qui l'a voulu en plus. La prière est un combat aussi. C'est un combat assisté. Reprenons Romains, chapitre 15. C'est un combat assisté. On n'est pas tout seul dans le combat. Romains, chapitre 15. Je me rappelle, moi, très longtemps, j'ai eu des voitures sans direction assistée. J'ai conduit un camion, même un deuxième, et quand j'étais prêt à être ouvrier, pas de direction assistée. C'était des doubles débrayages encore. Ouh là là. Maintenant, ils ont une boîte automatique avec le bouton, ouh là là, et maintenant, les femmes peuvent conduire les semi-remorques, les bus et tout. Ben oui. Avant, il fallait avoir des biceps comme des troncs d'arbre. Et puis vous changez les vitesses, mais tout le temps, 15, 20, 30 vitesses à certains camions. J'étais en train de faire la soupe tout le temps de la main droite et de la main gauche tenir le volant. Alors pratiquement ce qui se passe, il n'y avait pas de direction assistée. Quand il y a eu la direction assistée, il faut faire gaffe, hein. Il y en a qui se sont tués dans les tournants là, entre Croix-Rouge et Virton, dans les Malpierres. Ben oui, avec la direction assistée, ils ne faisaient pas attention, ils allaient trop vite dans les tournants, ils ont été dans le talus. Dans le ravin, ben oui, parce que la direction assistée, ça tournait tout seul, et bien, ils ne ralentissaient pas, ils ne géraient pas leur vitesse. Donc il a fallu gérer sa vitesse suite à l'usage de la direction assistée. Il y a un vérin hydraulique qui pousse et qui fait tourner les roues, etc. Donc c'est facile. Mais on peut avoir trop vite confiance. Il a fallu ralentir la vitesse et beaucoup mieux réfléchir comment on conduisait. Avant, ça tourne, c'était tellement dur, il fallait bien qu'on ralentisse. Autrement, on allait à la catastrophe. Mais avec la direction assistée, on pouvait aussi faire l'idiot. Avec la direction assistée du Seigneur Jésus, nous pouvons faire l'idiot ou nous pouvons être sages. Et ce n'est pas à cause de Jésus qu'on sera idiot. Ce sera à cause de nous-mêmes. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par, hein. Il ne fait pas ça en disant, c'est moi qui vous le dis, hein. Parce qu'il sait très bien que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il ne changera rien dans les églises. Il ne changera rien chez les chrétiens par lui-même. Il en a fini de croire qu'il peut faire quelque chose, lui, Paul. Hein. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Donc, Jésus-Christ vivant, l'amour de l'Esprit, donc l'Esprit Saint a un amour réel pour les frères et les sœurs. Il est agissant à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il est en prison. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Mais oui, ça n'arrive pas tout seul dans les églises, hein. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Ça n'est pas tout seul dans les églises. Pas plus que à droite et gauche aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, vous voyez bien, il compte sur l'intervention du Seigneur Jésus et la puissance d'amour du Saint-Esprit pour œuvrer à côté de sa prière. C'est ça le fer de lance de la prière. Le fer de lance de la prière, c'est qu'il sait que le combat est mené par la grâce. Il est mené par le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui édifie l'Église, c'est lui qui sanctifie les chrétiens. C'est lui qui se les attache en conférant le Saint-Esprit qui est rempli d'amour. Romains 5, 5, l'amour de Dieu était rempli dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Ça veut dire que Paul considère que dans son ministère, il n'a rien du tout. Le combat pour l'Église, c'est le combat du Seigneur. Aujourd'hui, Sainte-Seine, pendant longtemps, j'avais plus à cœur de qu'on fasse à Sainte-Seine. Je trouvais que trop souvent on était. Et voyant comment j'étais malade, etc., je me dis, tout compte fait, et en faisant le bilan sur moi-même, je dis, de toute façon, je ne peux rien faire sans le Seigneur, pour ma vie, mais les chrétiens dans l'Église ne peuvent rien faire sans le Seigneur. Si le Seigneur ne fait pas en eux, j'ai encore beau prêcher, Vincent et. Michael présidait, non, c'est le Seigneur qui doit agir, c'est le Seigneur qui est le directeur, et c'est le Saint-Esprit qui est l'animateur des cœurs. Alors, quoi qu'il en soit, la Sainte-Seine, tant pis, que chacun se mette en face de Christ, et se laisse, si le Saint-Esprit veut bien, leur donner le véritable amour, d'être fidèle, d'obéir à Christ. Mais moi, puisque l'ordonnance de la Sainte-Seine est une ordonnance. Je ne vais pas dire que j'ai raisonné comme ceci, ce n'est pas mon problème. Qu'on apprenne n'importe comment, non, c'est faux. Mais en attendant, je ne peux pas être crispé sur l'idée, il faudrait que tous y sont, tout le monde soit en ordre, et moi alors, je laisserai moi. Non. Alors, pratiquement tous en ordre pour prendre la Sainte-Seine. Donc, c'est un piège dans lequel j'ai eu du mal de voir clair, je vous le dis franchement, parce que il faut prier dans l'Église pour que ce soit le Christ et l'Esprit Saint qui aient l'autorité. C'est pour ça que dimanche prochain, on se réunit, ceux qui veulent, et qu'on jeûne. Et je veux dire que je demanderai de plus en plus qu'on jeûne, parce que c'est le Christ et l'Esprit Saint qui agissent dans l'Église. Autrement, ce n'est pas une Église. C'est Laodicée, derrière la porte. Derrière la porte n'est plus là. Et qu'on préside, qu'on prêche n'importe quoi, on n'y fera rien s'il n'y a pas l'intervention de Christ et de l'Esprit Saint. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas construire une Église. Sans son fondateur actuel, sans son acteur actuel, sans l'œuvre de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui trie le blé de livré plus tard. Donc il faut prendre une distance dans le ministère, prendre une distance, laisser, c'est au Seigneur, de trier les brebis et les boucs, et peut-être que c'est moi qui suis dans les boucs, hein. Ça sent mauvais les boucs. J'ai déjà un peu de poils en dessous du menton. Alors, Romains 15, vous avez vu comment il s'adresse aux chrétiens. Prenons Romains 8 maintenant. Il faut voir, il faut comprendre la tournure d'esprit de Paul et des autres apôtres quand ils écrivent pour se rendre compte à quel point c'est l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Et pas la nôtre. Romains 8, verset 26. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour ça, c'est au verset 28, excusez-moi. C'est juste avant. De même, aussi, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ben, dis donc, vous rendez compte qu'en au début du christianisme, on croirait qu'ils sont gonflés à bloc, chez Michelin, hein? Ils pètent la forme, oui, on le voit dans les actes des apôtres, ils pètent la forme. Ils sont en réunion de prière presque tous les jours, pendant des heures. Oui, voilà comment ils trouvent la forme. Hein? Parce qu'ils savent qu'ils sont faibles, et persécutés à outrance en plus. Eh bien, nous aujourd'hui, les amis, plus nous découvrons notre faiblesse, plus nous nous confions à l'œuvre de l'Esprit Saint, et c'est lui qui va nous animer, nous conduire. Ça, c'est le défi à l'orgueil, à la vanité humaine que nous avons reçue d'Adam et Ève. Et que la société veut toujours nous remettre dans le crâne. Par le travail, par la façon dont on vit avec les autres, on finit par être imbibé de ça, et on pense que tout dépend de nous. Rien ne dépend de nous dans la prière. Nous sommes trop faibles, c'est l'Esprit Saint qui doit venir en aide, et qui sait ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il faut apprendre à se laisser guider comme un petit bébé, comme un petit mouton. Se laisser guider dans la prière par le Saint-Esprit, c'est la clé de la vraie prière. L'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand un bébé est dans le berceau, « Maman, je veux une tartine !»« Papa, je voudrais des frites !» Il a 2 mois. « Réchauffe-moi le biberon qui est dans le frigo !» Il ne sait rien dire. Il va faire « ouin, ouin !» Il va pleurer. Peut-être avant de pleurer, il va commencer à gigoter. Il va soupirer. Il va faire quelqu'un qui a tenté, ça y est, il va avoir bientôt faim, il faut que je sois prête. Si on fait la maman ou le papa trop occupé, ben, on n'écoute pas les soupirs, hein? Oui, parfois on a des bonnes raisons, mais des fois on a beaucoup de mauvaises. Et puis le gosse finit par apprendre à hurler tout le temps, parce qu'on ne l'a jamais écouté quand il a soupiré. Et il finit par hurler tout le temps, chaque fois qu'il veut quelque chose. Et on s'étonne après qu'il faut le commander, lui mettre une fessée et tout ça. Non! C'est parce qu'on n'a pas écouté les premiers signes qui montraient ses besoins. Donc, ici, le Saint-Esprit adresse ses soupirs à Dieu dès les premiers besoins que nous avons. Il les adresse au Père, et le Père qui est attentif, vous avez vu le psaume, et qui nous regarde, sait très bien ce quoi nous avons besoin. C'est pour ça que dans la prière, retire-toi de ta chambre, dans le secret de ton cœur, quand tu t'adresses à Dieu, avant que ce soit sur tes lèvres, le Seigneur sait déjà ce dont tu as besoin. C'est parce que c'est un Père qui voit les soupirs, qui voit les petits signes. Et il commence à bouger les pieds. Oula! Là, ça, si je ne me prépare pas, dans 2 heures, il a cassé la baraque. Il hurle, et tout le bazar, j'ai une tête comme un seau. Ah non, je vais faire tout, 25 biberons à côté, je vais le gaver comme il faut, je vais lui mettre de la musique. Etc. Non, ce n'est pas des excès que Dieu veut. Dieu ne veut pas des excès avec nous. Il nous donne, dans notre faiblesse, ce que nous n'avons pas le moyen d'exprimer. Il nous donne dans notre faiblesse, parce qu'il sonde nos cœurs, regardez verset 27, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint communique, il a été déposé dans le vrai croyant, dans le chrétien, il communique avec le Père du ciel, la Trinité n'est jamais séparable. C'est un seul Dieu. La Trinité n'est jamais séparable. L'unicité de Dieu dans le christianisme est grande. On nous critique parfois, dans l'islam ou d'autres, les témoins de Jéhovah, etc., qu'on a fait 3 dieux. Non, du calme. La Trinité, la doctrine de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Non, quand l'Esprit Saint, dans mon âme, s'adresse à Dieu, déjà, le Père a compris ce que j'ai besoin. Alors, regardez bien, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est en faveur de ceux qui ont accepté Jésus et qui ont le désir de devenir saints pour plaire à Dieu, que l'Esprit Saint va porter à Dieu nos besoins. Donc, quand nous sommes en voiture, dans la nature, au boulot, dans la chambre. Tout d'un coup, on ressent bien qu'on a besoin de quelque chose à part de Dieu. Que ça ne va pas, c'est pas vraiment au point, notre vie, ou pas du tout. Eh bien, pratiquement, déjà, l'Esprit Saint nous a précédés pour montrer à Dieu. Ça ne veut pas dire que, oh ben c'est bon, hein, je m'en occupe pas parce qu'il lui s'en occupe à ma place. Non, Jésus a dit, retire-toi dans la chambre et confie-toi, dépose. Il faut faire comme l'Esprit Saint, il faut marcher dans le chemin de l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, marcher dans l'Esprit, pas seulement la chair. Yavol. Oui, il faut marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5. Alors, au verset 28, nous savons du reste, donc en conclusion, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est parce que l'Esprit Saint est en eux et les pousse à aimer Dieu. Parce que moi, c'est lamentable, hein, je vais dire que j'aimais Dieu passionnément depuis très très longtemps, mais curé, à des moments, j'étais très fier de mon passé. Et de me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un. Très fier de mon passé, oui. On est capable du pire et du meilleur si on se confie dans notre chair. Tout en étant appelé par Dieu, tout en étant touché par sa grâce, on est capable du pire et du meilleur. Il faut éviter la vanité. C'est pas facile. Heureusement que l'Esprit Saint est là. Et pourquoi ? Parce que c'est lui qui va faire concourir tout à mon bien et à la gloire de Dieu. Et pourquoi ? Mais parce que le Saint-Esprit va rester là. Pourquoi ? Regardez la fin du verset 28. Mais parce que c'est une personne, hein, en était appelé, selon le dessein du Père, à être dans son ciel. Et elle est sur son trône, elle en a déjà un. Tu vois, elle a déjà un avantage sur nous, elle en a déjà un. Alors pratiquement, elle est appelée à être sur son trône, oui. Éphésiens 2,8, la foi est un don de Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie. Mais qu'est-ce qu'il est mis juste un verset avant ou après ? Que nous avons une place et nous sommes assis en Christ auprès de Dieu. Donc, effectivement, nous sommes appelés à être dans la gloire de Dieu. Et pas à la dernière place. Il vaut mieux perdre beaucoup de choses ici, de notre orgueil, de notre vanité, pour recevoir cette place, pas pour la gagner. On ne gagne rien du tout, par nous-mêmes. Verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà. La prière, c'est la perte. Il faut avoir une identité. Comme chrétien, je suis appelé à être semblable à Jésus, Seigneur. Je suis appelé, j'ai déjà une place préparée d'auprès de toi. Déjà, mon nom est marqué sur la place, à cause du sang de Jésus, que tu m'as appelé. Seigneur, je n'arrive pas à vivre comme tu voudrais pour que je sois prêt là. Mais je sais que j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu l'Esprit Saint. Seigneur, que ton esprit m'aide à avoir des pensées propres, des pensées justes, à faire ta volonté. Seigneur, Philippiens. La prière, c'est se mettre comme l'argile dans les mains du potier. La prière, c'est la docilité. Philippiens, qu'est-ce qu'il est dit ? Philippiens, chapitre 2. Oui. Verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si Paul doit le dire, c'est que franchement, on était déjà en train de se figurer qu'on avait des médailles. Donc, c'est un combat pour une vérité formidable. C'est la vérité de ma disponibilité. Dans la prière, je vérifie ma disponibilité, ma docilité à Dieu. Dans la prière, je mesure la température de mon corps spirituel. Si je n'ai pas de recul, je ne prends jamais le temps, ben je vis comme un cinglé. Et je fais quoi ? Je me figure être quelque chose alors que je ne suis rien. Matthieu 5. C'est pour ça que la vie moderne d'aujourd'hui est très dangereuse. Mais déjà avant, hein, Avant qu'il y ait les voitures, les trains, les avions et tout le reste, c'était déjà le même problème pour l'homme. Hein. Parce que le péché n'a pas besoin d'avoir la technologie moderne pour exister. Hein. Matthieu 5, verset 43. Mais avec les moyens modernes, ça y est, on en rajoute une couche. Hein. Le téléphone portable qui sonne à tout bout de champ, l'Internet, etc. Alors, CV, tout le reste, des milliardaires en Europe volés à la prière, au recul, à la méditation, des milliardaires. Un gouffre, un filet, jeté sur le monde, c'est pas ça? Alors, pour le chrétien, pas de filet. Pas de filet, juste dans les cheveux pour tenir la permanente comme manette. Matthieu 5, verset 43, je te taquine. Hein. Vous avez appris, Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça en gomme, ça marche très bien. Même si c'est dit plus gentiment, mais c'est mis en pratique facilement ici. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que fait Jésus? Il m'adresse une parole où je dois faire tout le contraire de la société, tout le contraire de mon instinct, tout le contraire de tout ce que j'ai vu dans les films, dans les livres, dans les paroles des autres, etc. Je dois renoncer à considérer quelqu'un comme mon ennemi. Je dois renoncer à quelqu'un qui m'a maudit comme un être exécrable et mauvais. Je dois le bénir. Je dois le mettre sous la bénédiction de Dieu. Une fois, mille fois. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors là, il t'a roulé, il t'a fait perdre des sous, il t'a fait ci et ça. Il te demande encore à être aidé. Ben oui. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Tu ne vois pas qu'il t'a roulé? Ben oui, je sais bien. Oh, décidément, je ne comprendrai jamais. J'en peux rien, c'est Jésus qui me demande de le faire. Bon, alors, je me tais. Bon, on va suivre Jésus alors. Faisons taire nos rancœurs, nos amertumes, nos désillusions. Faisons taire les aigreurs. Et restons dans l'amour que Dieu veut que nous vivions. L'amour venu du Saint-Esprit. Soyons dociles au Saint-Esprit. Et nous pourrons prier avec des mains pures devant Dieu, dit Pierre dans son épître. Sans honorer Dieu, sans un cœur amer, sans un cœur aigre. Alors, il faut donc faire du bien à ceux qui nous haïssent. Il faut prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Eh bien, dis donc, être fils comme ça d'un Père pareil, bon, c'est impossible ça. Ouh là 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 là, c'est trop le cahier des charges est trop élevé. Hein? Oui, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu a décidé de mettre les arts de son Saint-Esprit en nous. Les arts. Il donne la preuve formelle qui vient à notre secours. Il donne sa présence en nous. En attendant que l'œuvre de perfectionnement soit finie, en attendant que Jésus vienne achever en nous ce qu'il a commencé. Afin que vous soyez fils de votre Père. Fils quand j'arriverai devant Dieu, fils là-bas, non, fils déjà maintenant. Dieu me voit déjà comment je serai plus tard. Et la gentille petite fille, la gentille petite femme, elle a tellement de défauts, elle ne sera jamais au paradis. Mais Dieu la voit déjà comme elle sera. Dans sa grâce, Dieu a décidé, je vais à tel moment lui parler dans son cœur. Je vais la ramener, je vais la consoler, je la ferai sortir du désert, je rafraîchirai son âme, je lui parlerai, et elle aura un amour éternel pour moi. Mais il y a des textes hein, dans la Bible. Clairement, Dieu est capable de transformer nos déserts en jardins fleuris. Lisez dans Ésaïe, il y a plein de psaumes, plein de chapitres. Donc, nous sommes fils par élection, Nous ne sommes pas fils parce que nous avons ou fille par nous-mêmes. Nous sommes fils de notre Père, par élection et parce qu'il a toute puissance pour le faire. Donc ma foi, c'est la confiance dans la puissance de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas de la présomption. C'est la confiance dans la puissance de Dieu dans ma vie pour me changer, pour m'amener au but final en bon état, dans l'état de sainteté. En attendant que ce soit bon un jour, mauvais l'autre jour, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ben oui, parce qu'à tour de rôle, nous sommes justes et injustes, bons et méchants. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Alors, ça c'est quelque chose de terrible. Vous êtes à la poste, vous êtes partout, et vous dites « Bonjour !» Hein? Vous arrivez avec le sourire, vous arrivez partout. D'abord, ils sont perdus, hein? Certains sont perdus. Mais vous découragez pas, ça leur fera du bien la fois d'après quand ils vont vous voir. C'est celui-là qui dit bonjour, c'est celle-là. Oh, on aime bien quand elle est là. Hein? Ne vous effrayez pas. Et pour finir, ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand vous arrivez. Ah, on est content. Et vous êtes toujours heureux, vous. Vous avez le sourire. S'ils savaient que des fois j'ai envie de pleurer, mais en tout cas, je sais que le Seigneur me demande de ne pas arriver avec une sale tronche dans la poste, ou à la boucherie, ou au magasin à la supérette. Et pourquoi? Mais parce que j'ai un Seigneur qui m'aime, qui va achever en moi ce qu'il a commencé, et que tout ce qui est possible en moi est possible chez les autres. Donc si c'est possible chez les autres, pourquoi est-ce que je cracherais dessus? Pourquoi je serais amer sur eux? Si je suis amer sur eux et que je ne leur tends pas la perche par mon sourire, c'est parce que je n'ai pas la foi dans la puissance de Dieu pour les transformer. Je suis encore un sale égoïste qui pense que mon petit salut à moi, oui, le salut pour tous, bien qu'on sache qu'il y en a qui ne l'accepteront pas. Alors, évidemment, tout ça, ça se passe dans le creuset de la prière. C'est dans la prière qu'on se remet en question, qu'on prend distance. Et qu'est-ce qu'on entend dans la prière? Les païens n'agissent-ils pas de même? Ben, t'as pas été brillant aujourd'hui, t'as fait comme tout le monde. Ah ben, mon vieux, tu m'as bien oublié, hein? Alors, demain, ce soir, tu décides quoi? Tu recommences encore une journée pareille? Ben non, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, conduis-moi. Reste avec moi. Donne-moi un cœur brûlant pour les autres, pas glacial. Fais-moi sortir de mon nombril, gros comme un klaxon de camion, Seigneur, que je regarde ton visage, ta face. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'attraction de Dieu dans la prière, l'attraction de la perfection divine, mise au concret tous les jours dans la vie. Parce que si c'est une attraction pour un Dieu parfait, mais mystique là, juste dans ma chambre, dans mon coin, mystique, mais je sors, ça y est, c'est fini. J'ai fait une coupure. Non, je crois à la perfection divine comme étant la finalité de tous ceux que je rencontre dans la rue, sur la route, partout. Et je ne regarde pas à ce qui ne va pas, je ne regarde pas à l'œuvre de Satan, je ne regarde pas à l'œuvre du péché, je regarde à ce que Dieu veut et désire pour tous. Et pour moi, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que Jésus, quand il est arrivé sur terre, n'avait pas un cœur débordant pour tous? Et pour moi? Voilà le siège de la prière, c'est d'accepter les sentiments qui étaient en Jésus, de les accepter en nous. Adieu le mauvais sentiment. C'est un combat assisté, la prière. Comme la direction assistée en voiture. L'état intérieur en nous aboutit à une confession de Jésus. Seigneur, je sais que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je sais que c'est avec toi que je vis vraiment. Tout le reste. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, apprends-moi à t'aimer plus. Seigneur, apprends-moi à être plus avec toi partout où je vais. J'y arrive pas. Quand je suis tout seul en train de m'allier, ça va, ça va. Et quand je suis avec les autres, j'y arrive pas à être avec toi. J'arrive pas à les voir comme je devrais les voir. Mais Seigneur, je te demande pardon, apprends-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. C'est le lieu de la confession. Pour changer. C'est le lieu de la transformation. Par mon Dieu. Par mon Dieu. Pas par moi-même. C'est le lieu où j'apprends à devenir quelqu'un d'autre pour aller dans le monde envers les autres d'une autre manière et leur apporter quelque chose d'autre qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas. La meilleure façon d'évangéliser, c'est de donner une Bible, de donner un papier. C'est d'abord mon comportement qui doit être différent des autres. Après, on va se dire, mais curé, c'est quand même bizarre. Il a quelque chose de différent, ce gaillard-là, cette femme-là. Mais c'est quoi de ça? C'est si bien 15 jours après, 2 heures après, ou 20 ans après. Mais tu ne peux pas m'expliquer pourquoi c'est différent, pourquoi c'est ça. Bon, il y a une explication à tout. Il suffit d'attendre le bon moment. Et on ouvre sa bouche alors. Le Seigneur est mon sauveur. Alors, Luc 12. Ce que je voudrais bien, moi, c'est que la prière et la vie ne soient pas séparées, ne soient pas opposées, et que la prière soit pas une corvée, et que la vie soit pas une corvée. On sait très bien que si on se laisse aller, on aura tous les pieds de plomb, les godasses trouées. Je parle au niveau spirituel. Ça arrive parfois d'une manière concrète aussi. 12, verset 8. Luc 12, verset 8. Jésus vient juste de dire au verset 7, « Ne craignez donc pas, vous valez plus que les petits moineaux. » Hein? Oui. J'ai souvent, quand je fais du blé, je fais la farine, je dois aspirer dans le moulin tout. Crotte de souris, crotte de rat, enfin, partout. Je dois tout nettoyer avec un gros aspirateur et nettoyer tout, faire tourner pendant un quart d'heure. Bon, il faut que tout soit propre pour faire de la farine. Eh bien, quand j'ai fini mon aspirateur, je vais le vider là, dans le parterre. Ma femme n'est pas contente. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, parfois je viens ici tout seul et je regarde. Il y a des moineaux. Vous verriez les moineaux comme ils sont contents. Ils sont là dans toutes les branches et tout. Il y a même un écureuil qui vient. Alors, ce n'est pas les crottes de souris et de rats qu'ils prennent. C'est le bon grain. Ils savent trier. Ils prennent la farine. Ils sont intelligents. Eh bien, nous soyons intelligents aussi. Ne prenons pas les crottes de diable, prenons la bonne farine, les bons grains de Dieu. Alors, les crottes du diable, c'est la peur. 12, verset 7. C'est la peur, c'est la crainte. L'insécurité, le sentiment d'insécurité. Il y a des gens qui ont des tas de sous, des baraques qui sont dans l'insécurité. Il y a des autres qui n'ont rien dans les poches, rien du tout, qui sont heureux. C'est les deux extrêmes. Mais il y a toute la gamme entre. Et la crotte du diable, pour moi, c'est la crainte. C'est le trouble. Verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Prenez attention à autre chose qu'à la peur. Pensez à Jésus dans votre vie et essayez, je dis bien essayez, d'en parler aux autres. Essayez. Puis un jour, vous allez vous rendre compte. Vous avez prié, vous avez vraiment demandé, puis tout d'un coup, c'est quelqu'un qui vous tend la perche pour que vous lui en parliez. Alors là, vous voyez que la prière fait partie de la confession du nom de Jésus. Parce que c'est elle qui prépare pour que votre parole soit reçue. S'il n'y a pas eu de prière, vous prêchez, vous tapez à côté. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas demandé sincèrement dans la prière, seul à seul avec lui. Et à moi comme pour tous les autres. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Ici, c'est l'inverse. La proposition est inverse. Je prie, je prie, je prie. Je vais à l'église, je vais à l'église. Mais non, on va parler de Dieu. Alors, non, pas du tout. Hein. Croyez-vous que votre prière dans votre chambre dans votre voiture, je ne sais pas où, va être acceptable pour Dieu? Non. Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Si vous attendez l'occasion de parler du Seigneur à droite et gauche, que vous demandez, vous suppliez le Seigneur, l'Esprit Saint va vous y aider. La deuxième chose, dans la prière, vous serez encouragé. Vous allez augmenter dans votre prière parce que vous allez augmenter dans votre confession de foi aux autres. Et il n'y a pas un sans l'autre. C'est deux jambes qui vont ensemble. Pas moyen de couper ça en deux. Donc, si vous ne faites pas une supplique à Dieu de pouvoir parler à des autres, où que ce soit, à une pompe à essence, n'importe où, quelqu'un qui est en stop, vous n'avez pas cette supplique en vous-même. Vous n'allez pas le mettre en pratique. Mais si vous ne mettez pas en pratique, vos prières, c'est quoi alors? Que je n'ai pas peur quand je suis malade, que j'ai des sous pour payer les factures à fin du mois, que mon petit-fils ait sa grippe ou son appendicite de soigner. Et c'est quoi? Mais les païens font la même chose, hein? Il y en a qui mettent des bougies devant les statues, il y en a qui font tourner les moulins, hein, dans les lamasseries. Les païens font la même chose, c'est pas ça la prière en Christ. Seigneur, je t'appartiens. Je te confie mon petit-fils qui est malade, je te confie ma femme qui est gravement malade, et moi dans la rue, Seigneur, s'il y a quelqu'un devant moi qui demande à ce que je parle de toi, je répète, Seigneur. Parce que je te fais confiance pour tout ce qui me concerne, et maintenant je dois aussi chercher à faire ta volonté dans ce qui te concerne, Seigneur. Ce qui te concerne, c'est les autres quand je les rencontre. Donc, cette parole est très importante. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Est-ce que ça concerne la prière d'un chrétien? Nous avons, bien sûr, des gens qui sont dans la société opposée à Jésus et qui parlent contre. À la croix, vous l'avez vu pour le brigand et Jésus lui a pardonné. Jésus est capable et veut pardonner à n'importe quel mécréant qui lui a craché la figure. À quelqu'un qui a persécuté des chrétiens, l'apôtre Paul. À quelqu'un qui a torturé peut-être des chrétiens, qui a violé des chrétiennes. Il peut pardonner en faire un enfant de Dieu. C'est clairement mis là. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Si je ne me laisse pas conduire quand je suis pardonné, je ne me laisse pas conduire par la vérité de Dieu en moi. Je ne me laisse pas transformer. Je ne suis pas dans les mains de Dieu. J'ai été pardonné, tant mieux. Je suis sauvé. Arrière de moi, je ne vous ai pas connu, vous avez vécu dans l'iniquité. Parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est être conduit dans la vérité, c'est être conduit dans la prière, c'est être conduit dans la confession, le témoignage, c'est être conduit vers le chemin de la sainteté, pour ressembler au Père Céleste. C'est accepter le programme de Dieu, c'est accepter de renier tout ce qu'on est, pour accepter tout ce que Dieu est en nous. Et donc, Dieu est capable de tout pardonner, mais il y a un problème. Refuser qu'il soit à l'œuvre en moi, et me présenter devant Dieu, avec la croix de Jésus sur moi, je lui dis pardonner la croix. Tourne-toi! C'est pas possible. Le programme de sanctification, le programme d'obéissance au Saint-Esprit, le programme de perfection, des œuvres parfaites préparées d'avance, c'est non, c'est mon programme. C'est mon programme. Il est indiscutable. Si je le refuse, j'ai été confessé le nom de Jésus pour un gros zéro. Dieu ne se prend pas les pieds dans les filets des hypocrites. Mais si j'accepte que le Saint-Esprit me parle, me conduit, regardez verset 12, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit me conduira à parler simplement de Dieu, de Jésus. Il me conduira. Voilà comment on ne blasphème pas le Saint-Esprit. Donc la prière, c'est vraiment là où vraiment on se prépare pour se laisser emporter par le Saint-Esprit, conduire, et ne plus avoir de peur. Simplement la confiance. Pas la hardiesse, hein, pas la témérité, la confiance. Et on peut évangéliser par hardiesse, par témérité, par esprit de défi, ça c'est charnel. Totalement charnel, c'est pas spirituel. Donc les amis, aujourd'hui, Dieu nous a programmés pour une vie dans le Saint-Esprit. J'ai ce que j'ai lu Matthieu 10, et puis j'arrête. Peut-être, hein. Matthieu 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24. Ah. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. C'est pour ça que pour dimanche prochain, si quelqu'un voulait le lire et présenter, alors là, ça c'est clair, le disciple n'a pas été dans une condition différente de Jésus. Il en a ramassé plein la tronche. Et il est resté fidèle. Le serviteur n'a pas été plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Si j'appelais le maître de la maison, donc Jésus, le maître de la maison, Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Donc les chrétiens peuvent être appelés Satan. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des lettres où on me traitait de Satan. Ça arrive plusieurs fois. Ça fait un seul effet au début. Hein. Parce que le ton y est, hein. Et vas-y, nénesse, hein. Ça fait... Quand vous n'avez jamais reçu ça, vous vous réveillez, hein. Parce que vous savez très bien où il veut taper, hein. Des gens que vous avez aidés, hein. Des gens que vous avez aimés, hein. Vous avez aidé beaucoup, hein. Ouais. Chac. Eh bien, je vais vous dire, quand Jésus est sur la croix, l'endroit que j'ai vu là, avec le rocher, le Golgotha, le lieu du crâne, d'abord c'est sinistre. Un crâne. C'est pour ça qu'on met surtout des bouteilles de pharmacie, un crâne, hein, avec deux os là. Dans les tombes où habite Jackie, il y a un cimetière du Moyen-Âge, sur toutes les croix, il y a une tête, comme ça, avec des os. Il était obsédé par la mort là. Eh bien, pratiquement, quand Jésus a été mis sur le bois là, tous les responsables ont dit que c'était un envoyé de Satan. Il était venu pour détruire la religion juive. Pour détruire le temple. C'était un enfant de Satan. C'était pas un juif. C'était pas un envoyé de Dieu. Regardez le texte là. Et pourquoi est-ce que dans Moïse, dans le livre des Nombres, vers le chapitre 20 ou 21, dans le livre des Nombres, on voit que tout d'un coup, le peuple a tellement péché, il meurt par la piqûre de serpent. Satan, l'idolâtrie, la désobéissance et tout. On élève un bois, on met un serpent d'airain dessus. Et ceux qui prient, qui invoquent les serpents d'airain, ça préfigure Jésus à la croix, traité de Satan. Ce serpent sur le bois dans le désert, ça préfigure le Christ considéré comme l'envoyé de Satan, le maudit, le rejeté de la nation, le rejeté par les prêtres. Et c'est lui qui donne le salut. Le rejeté qui donne le salut. On a fait porter à Jésus tous les titres. Et surtout celui de Satan, Belzéboul. Alors, le disciple peut être traité de Satan comme son maître. Le disciple peut être vu comme quelqu'un de maléfique, de mauvais, qu'il faut exclure. Ne les craignez pas, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. Ne les craignez pas. Ils sont connus déjà de Dieu aujourd'hui, ceux qui ne vous aiment pas. Ne les craignez pas, ils sont déjà connus et jugés, ceux qui vous condamnent. Quand vous allez quelque part, que vous êtes au travail, et qu'on ne vous aime pas, priez. Priez pour qu'il y ait quelqu'un qui aime Jésus. Priez que pour quelqu'un change. Pendant la nuit, le Seigneur lui parle, etc. Qu'il trouve un message dans un film, un livre, et puis tout d'un coup, il viendra s'approcher de vous. Mais il y a des autres qui sont obstinément contre. Dieu les a déjà connus. Autant que ceux qui ont traité Jésus de Belzébuth. Les a connus et il sait déjà où ils vont. Ne les craignez pas. N'ayez pas un esprit de faiblesse en allant dans le monde où travaille. N'ayez pas un esprit de peur. Sachez que tout est clair devant Dieu et qu'il est avec vous, tout près de vous, en vous. C'est votre défenseur, votre bouclier. Donc le psaume qui a été présenté aujourd'hui est tout à fait le même langage. Le langage de la Bible, de la foi. Qui veut prier ?